amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets calientes de la Silicon Valley. Alors, si vous suivez cette émission, vous le savez, on ne veut pas de pub dans Silicon Carnet. On refuse de mettre notre contenu derrière un paywall. On préfère vous proposer des NFT pour vous permettre de devenir propriétaire de nos contenus et d'échanger ensemble. On a sorti toute une série de NFT et c'est un énorme carton. Ils sont sold out, il n'y en a plus. Donc, on a décidé que chaque émission de Silicon Carnet serait maintenant disponible sous forme d'un seul et unique NFT. Chaque semaine, vous pourrez devenir le propriétaire d'un épisode de Silicon Carnet. Et avoir accès à la communauté des collectionneurs, en français, des NFT de Silicon Carnet. Ça se passe sur uncut.fm. Et dépêchez-vous, car je pense que le NFT de cette émission va partir très 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 vite. Allez, retour à votre épisode. Depuis plus de 30 ans maintenant, nous avons glissé d'un Web 1 composé au début de textes et d'images statiques au Web 2 que nous connaissons aujourd'hui, dominé par des plateformes centralisées qui concentrent la grande majorité des données et des richesses. Ce status quo, le Web 3, a décidé aujourd'hui de le renverser et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette révolution suscite beaucoup de passion, beaucoup d'interrogations. On nous fait la promesse d'un Web décentralisé où la valeur et les données seraient transférées de manière transparente sur la blockchain et où la propriété et le contrôle seraient mieux redistribués. Cette semaine, j'avais envie d'évoquer ce basculement vers le Web 3 avec deux stars du Web 2. Ils ont tous deux créé des entreprises technologique à succès, que ce soit dans le domaine du transport ou de la vente de photos en ligne. Et ce succès, ils le doivent avant tout à la participation active de leurs utilisateurs. Et j'avais envie de leur demander à quoi aurait ressemblé Blablacar ou Fotolia en 2022. C'est la question que je vous propose de poser à leurs fondateurs. Bonjour Frédéric Mazzella et Thibaut Elzière, bienvenue dans Silicon Carnet.
Bonjour.
Salut Carlos.
Hello, hello les amis. Alors on vous présente plus, je vais commencer par Thibaut Elzière, je vais quand même essayer de vous présenter chacun. Thibaut, tu es aujourd'hui à la tête d'un startup studio légendaire qui s'appelle eFounders. Avant ça, tu avais créé Zilloc et puis Fotolia, dont je parlais tout à l'heure, que tu as revendu à Adobe en 2014, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça.
Exactement, 2014, 10 ans, 10 ans de dur labeur.
10 ans de dur labeur avant de céder Fotolia à Adobe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu lances ta propre startup, ça s'appelle Folk. Je suis d'ailleurs utilisateur de Folk, je te félicite, je l'utilise régulièrement. Alors, ce n'est pas du Web3, mais j'ai cru comprendre, mes petits espions m'ont dit que eFounders avait décidé de se mettre à la blockchain et de lancer des projets dans le secteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelque chose ou est-ce que c'est encore secret cette histoire?
Alors le nom du studio est encore tout à fait confidentiel, mais le fait qu'on lance un studio Web3 ne l'est plus. On a lancé notre premier projet du studio là il y a quelques mois, sachant qu'on avait fait notre projet il y a 4 ans. Notre premier projet Web3 qui s'appelait Multis, on n'appelait pas le Web3 à l'époque, mais ça s'appelait Multis, qui était un wallet, je dirais multisig, qui était un peu notre porte d'entrée dans la blockchain. Et on s'est dit que ça s'est bien passé. On a fait une super levée de fonds là dernièrement avec Sequoia et on s'est dit voilà, il faut s'y mettre, allons-y. Et comme on est dans une espèce de réflexion sur le fait de verticaliser notre studio, eFounders originellement, hein, c'est du SaaS.
B2B et beaucoup, hein, des produits de collaboration et qui améliorent la productivité des entreprises essentiellement.
Exactement. Et on a réalisé rapidement qu'on n'était pas capable de lancer dans une verticale donnée avec un entrepreneur plus de 4 ou 5 boîtes, parce que créer une boîte, ça reste de l'artisanat. On s'est dit qu'on allait essayer d'aller appliquer notre modèle de studio à d'autres verticales. On l'a fait avec Camille Tian sur la fintech l'année dernière. On lance le studio Web3 cette année. On cherche toujours notre head of studio, la personne, l'entrepreneur qui va prendre la direction du studio. Et on va le faire certainement sur d'autres verticales, le climat, sur la santé, dans les prochains mois, les prochaines années. C'est hyper excitant et c'est un peu la grosse nouveauté chez eFounders.
Et alors, mais est-ce que ça veut dire que lancer une verticale spéciale Web3, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas les mêmes personnes non plus. Quand tu dis « je cherche un head of studio », ça veut dire que les gens de chez eFounders qui sont déjà chez eFounders ne sont, sont pas forcément câblés pour faire des startups Web3. Qu'est-ce qui change ? Quelle est la différence entre une startup Web2 et une startup Web3 ? C'est une différente... La culture, les gens, la technologie ?
Écoute, une des raisons pour lesquelles on avait décidé de se verticaliser et de changer complètement le nom du studio à proprement parler, c'est pour ça qu'on évoque un nouveau nom, c'est le fait que les gens du Web3, ils ont pas envie d'avoir une évocation Web2, quoi, tu vois. On est un peu les anciens. Ouais. Donc du coup, on va
ça pue le Web2, quoi, c'est ça.
Ah ouais,
ça pue un peu, quoi.
Ah, ça pue un peu le Web2. Mais ouais. Rappelle-toi à l'époque, hein, nous on est né un peu dans le début du Web2, on avait l'impression que le Web1 ça puait aussi, quoi, tu vois. Et donc il y a ce même sentiment qui est évidemment à moitié vrai, hein. On pue pas tellement que ça, mais du coup, il faut changer l'ADN, la manière même dont peut-être le studio va être gouverné, hein. On réfléchit à mettre une DAO. En gros, on a envie de rentrer dans les codes, de comprendre les codes et du coup de les appliquer du Web3 et sur les profils des personnes aussi, hein. Alors, regarde, ne serait-ce qu'au niveau du design, hein, qui est quelque chose qu'on retrouve à la fois, ou des interfaces, quelque chose qu'on retrouve à la fois dans le Web2 et le Web3, elles sont quand même très typiques. Le design, c'est marrant, le design
Web3. Ouais, c'est hyper rétro. Rétro.
Ah ouais, c'est années 80. C'est les missions spatiales, quoi, tu vois, pour moi. C'est la NASA, quoi, tu vois. t'as l'impression qu'il y a des météorites et des choses comme ça. Et cette ADN, elle vient souvent de gens qui sont nés, qui sont natifs de ces sujets-là, ou qui ont été vraiment très impliqués dans le sujet. Et c'est ces gens-là avec qui on va créer une squad, qui va être la squad qui va venir les entrepreneurs justement qui vont nous rejoindre.
Super. Alors mon deuxième invité, vous avez entendu son nom, vous le connaissez, c'est Fred Mazzella. Toute la France le connaît. Tu es le cofondateur de BlaBlaCar. Tu as été aussi co-président de France Digital. Tu l'es toujours d'ailleurs, co-président de France Digital, ou non, tu as laissé ta place ?
Oui, oui. Je suis content que tu dises que
tu es encore co-président de France Digital.
Exactement. Si tu dis que je l'ai été, c'est que tu estimes que l'action est déjà, comment dire, passée à la postérité. Mais non, je suis dedans. Ça fait pas très longtemps. Super.
Non, mais excuse-moi, Fred, parce que moi, je vis à San Francisco. Je regarde ça de loin et je pensais que tu avais fini cette mission, mais je suis ravi de savoir que tu es encore co-président de France Digital. Et effectivement, je sais ce que tu as fait depuis le début de France Digital, et c'est super que tu sois toujours impliqué dans cette association. On t'a vu aussi dans la première saison de Qui veut être mon associé sur M6. D'ailleurs, tu n'y es pas dans la nouvelle saison. Pourquoi tu n'étais pas dans cette nouvelle saison ? Tu n'as plus d'argent, c'est ça ?
Ouais, pour plusieurs raisons. Bon, la première, tu sais, c'est que c'est quand même 10 jours de tournage, hein, pour une saison. Donc déjà, il faut les trouver, les 10 journées, de 8h du matin jusqu'à 20h. Donc, faut déjà trouver 10 jours. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense que je suis un petit peu plus peut-être entrepreneur qu'investisseur, en vrai. Il y a un rôle investisseur où, en fait, moi, j'aime bien être aux côtés des entrepreneurs. J'aime bien créer plus que peut-être juste simplement parier sur une équipe ou un projet. J'aime bien faire. Voilà. Et donc, ce côté où tu investis, ben, je pense que c'est pas exactement pour moi. Voilà.
Donc, regarder depuis le banc de touche, c'est sympa, mais au bout d'un moment, t'as envie d'être sur le terrain, c'est ça, quoi.
Ouais, j'ai envie de faire, ouais.
Ouais. Ben, tu vois, tu l'as trouvé, ton head of studio, Thibaut. Non, il n'est pas très Web3. On va en parler justement parce qu'il débarque un petit peu dans ce sujet du Web3. Et en parlant d'aider les entrepreneurs, tu as récemment publié un livre, No Bullshit, qui raconte un peu l'histoire de BlaBlaCar depuis l'intérieur. C'est d'ailleurs en lisant ce bouquin que tu m'as gentiment envoyé, avec une dédicace super sympa, je te remercie d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de cette émission, parce que en faisant la lecture, alors je vais être tout à fait franc avec les auditeurs et avec toi, quand j'ai reçu le bouquin, je me suis dit je la connais, l'histoire de BlaBlaCar, je vais me faire chier, quoi, en fait, mais comme c'est Fred Mazzella et que c'est un pote, je vais quand même lire le truc. Et j'avoue que j'ai été complètement absorbé par le récit, et je te parle vraiment du récit parce que je trouve que tu as réussi un exercice qui était très compliqué, qui était à la fois de mélanger un récit, on a vraiment l'impression de suivre une histoire avec des personnages, un espace-temps, un espace-lieu, et aussi des conseils super pratiques sur, à ce moment-là de l'histoire, voilà ce qu'il faut retenir, il y a une fiche pédagogique, etc., etc. Et bon, moi, j'étais plus intéressé par le récit que par la partie pédagogique, mais elle est vraiment très, très bien faite. C'était vraiment un objectif que tu t'es donné en écrivant ce bouquin, Fred ?
Oui, complètement. Mais merci beaucoup. En fait, oui, l'objectif, c'était d'écrire, si tu veux, des enseignements entrepreneuriaux, vraiment plus ce que j'en ai appris que véritablement l'histoire. Alors, l'histoire de Blablacar, c'est pour ça que le bouquin s'appelle Mission Blablacar. Mais en fait, l'histoire n'est qu'un support, voire un prétexte pour diffuser tout un tas de tips, de méthodes, de réflexes à acquérir. Et ça traite tous les sujets qu'un entrepreneur ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que, tu vois, on aborde le sujet de la marque, le sujet du produit, le sujet du recrutement, le sujet de l'international, le sujet du modèle économique. Et tout ça, tous ces sujets sont traités vraiment de manière extrêmement, comment dire, à la fois...
Détaillé, hein, très détaillé.
Ouais, détaillé, ouais. Et à la fois méthodique et en même temps ludique, c'est-à-dire que voilà, c'est du récit, puis c'est très concret puisque du coup on peut se rapporter aux exemples de Blablacar. C'est pour ça que le bouquin a été qualifié de MBA à 19 euros quand il est sorti, en fait, ou de prépa startup aussi, on m'a dit, ou alors livre de chevet de l'entrepreneur, parce que en fait c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. C'est-à-dire que il est très facile à lire, mais il est quand même assez dense et t'en ressort avec mes 15 ans d'expérience d'entrepreneuriat, quoi.
Bravo, félicitations. J'invite tout le monde à acheter ce bouquin. Donc, ça s'appelle Mission Blablacar. C'est écrit par Fred Mazzella. Et ça vaut vraiment le coup d'être lu, qu'on débute dans la fonction de start-upper ou même, moi, j'ai adoré le récit et comment tu racontes l'histoire de Blablacar. Il y a plein d'anecdotes que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en lisant ce bouquin. Bravo, félicitations, Fred, pour cet ouvrage. Je sais le temps que ça prend. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à écrire ce truc, quoi, mais.
J'ai compté, ouais, j'ai passé quasiment 500 heures.
Waouh! Ouais, bon, alors 500 heures concentrées dans 200 pages pour 19 euros, c'est un no-brainer, comme on dit ici aux États-Unis. Bon, alors revenons à notre sujet. Ce qui est intéressant, c'est en vous ayant tous les deux, c'est que, et en préparant cette émission, c'est qu'il y en a un de vous deux qui a complètement plongé dans ce Web 3. C'est Thibaut. Il ouvre aujourd'hui ce studio avec eFounders. Et puis, toi, Fred, c'est un truc que tu regardes, que tu observes. Je te sais très, très curieux, mais t'as pas encore plongé complètement là-dedans. Thibaut, on voit à peu près où est-ce qu'il en est. Il est déjà en train de fabriquer des startups. Toi, Fred, quel regard est-ce qu'aujourd'hui tu portes sur ce changement de paradigme entre ce Web 2 dont tu as été un des grands acteurs, en tout cas en France, et ce Web 3 qui émerge avec des nouvelles têtes aussi, hein.
Bah moi, je suis dans le Web 4, moi.
Ah, t'es déjà dans l'étape d'après.
Ah ouais, tu vois. Bon, on peut parler du passé, si vous voulez. Non, je rigole. En fait, non, oui, effectivement, j'ai pas plongé dans le Web 3 aujourd'hui. Je regarde ça. Je cherche des applications. Moi, ce qui me plaît, c'est quand une technologie sert vraiment non seulement une vision, un but, une ambition, mais aussi que j'ai l'impression que ça apporte quelque chose de vraiment pas seulement nouveau, mais surtout utile. Et j'en suis encore là, j'avoue, vis-à-vis du Web 3 et de tout ce qui est decentralized finance ou tout ce qui peut être blockchain et tout ça. Je cherche les applications qui vont améliorer le monde. Donc voilà. Bah d'ailleurs, si vous avez des applications directement qui me démontrent qu'on améliore le monde avec tout ça, je plonge dedans.
Ben on va poser la question à Thibaut. Merci de faire ce raccourci. Mais Thibaut, si on devait persuader Fred de l'utilité du Web 3 et de ses applications, qu'est-ce qui te vient en tête, toi, immédiatement ?
Écoute, déjà, moi, je suis effectivement passionné par le Web 3, mais surtout par les opportunités que ça ouvre. Et il a raison, hein, Fred, de dire que on est au début des applications. Et comme tous les cycles d'innovation, on commence par des technologies sur lesquelles on reconstruit un petit peu les applications du passé. Puis viennent les nouveautés, et on en est à ce que moi j'appelle le Web 2.5, hein, où on essaye d'appliquer. Ouais. Cette nouvelle technologie a des paradigmes qu'on connaît déjà, tu vois. Moi, ce qui va m'intéresser, et je pense que Fred, c'est le moment où il s'y mettra vraiment, c'est qu'on va naître des nouvelles applications qui auxquelles on ne peut pas encore penser, comme dans les années 2000, on n'imaginait pas la notion de social network, quoi, tu vois. Donc, à savoir après si les réseaux sociaux hein, ont aidé ou pas, ont un impact positif sur l'humanité, ça c'est une grande question. Donc, et du coup, la question de savoir si aujourd'hui, il y a des applications qui sont, je dirais, qui ont un impact positif pour le monde ou pas, je sais pas, par exemple le Bitcoin, l'idée d'avoir une monnaie complètement décentralisée qui est pas forcément gérée par des tiers, est-ce que c'est quelque chose de positif pour l'humanité ou pas, c'est une question presque, je dirais, philosophique, mais tout est-il qu'aujourd'hui on a une alternative au système, je dirais, bancaire tel qu'on le connaît depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies.
Oui, décennies, ouais.
Quelques décennies. Donc la blockchain, ça permet notamment, je dirais, de supprimer les tiers de confiance et ces tiers de confiance qui, par exemple, se rémunéraient trop, qui avaient un pouvoir de décision important, ils vont disparaître. Et la question, c'est de savoir si c'est pour le bien ou pour le mal, quoi. Et je dirais que ça va dépendre. Des cas d'usage, quoi. Dans l'histoire de Fotolia, hein, pour revenir à cette banque d'images que j'avais créée, le fait de supprimer, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça voudrait dire, je dirais, Fotolia à l'heure du Web 3, ça serait de créer un Fotolia sans Fotolia, c'est-à-dire de mettre directement en contact les photographes qui veulent vendre leurs photos et les acheteurs, quoi. Et on voit que ça a des avantages, c'est-à-dire que ça permet aux artistes, aux photographes, de gagner davantage d'argent, puisque nous, on en prenait une grosse partie, mais ça a aussi des inconvénients, parce qu'on faisait des missions comme la curation, l'indexing, qui devront être réalisées par quelqu'un ou d'une autre manière, et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir creuser, mais qui seront faites à travers des DAO, potentiellement, ou à travers de l'intelligence artificielle. Il y a... Voilà, donc le Bitcoin, en tout cas, c'est, je dirais, l'application la plus probante de la monnaie décentralisée qui existe aujourd'hui, quoi.
Ouais, pour donner un exemple, Fred, moi j'ai mes développeurs sur ma nouvelle startup Uncut. Certains sont basés en Ukraine. Quand l'invasion russe a commencé, bien évidemment, il y avait une guerre sur le terrain, mais il y a eu aussi tout un tas de hacking des institutions ukrainiennes et notamment des banques. Et moi, très rapidement, dans les jours qui ont suivi l'invasion, mes développeurs, par exemple, m'ont contacté pour me dire « Carlos, surtout, ne nous envoie pas d'argent, ne nous paye pas sur nos comptes bancaires ukrainiens traditionnels, parce que je viens de regarder mes comptes bancaires, ils sont tous à zéro. Donc notre banque s'est fait hacker. Donc s'il te plaît, envoie-moi du Bitcoin, quoi. » C'était grosso modo, c'était leur message, c'était de dire je suis sûr que mon crypto wallet, j'y ai encore accès. Est-ce que tu peux me payer en Bitcoin? Donc voilà, par exemple, un usage. On voit bien que les systèmes bancaires sont aussi peuvent être la cible de situations géopolitiques qui échappent à l'individu, et que là, tout d'un coup, avec un crypto wallet, je suis protégé de choses qui puissent arriver comme ça géopolitiquement.
Ça permet potentiellement aussi au gouvernement russe de se financer, alors que on a mis à plat SWIFT, qui était le système d'échange de...
Absolument, tu as raison. Les sanctions qu'on a mis en place contre la Russie, elles datent un peu d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde s'est gossé en disant on peut aider vraiment le gouvernement ukrainien en envoyant des cryptos au gouvernement ukrainien automatiquement. Mais les Russes aussi hein, peuvent utiliser la blockchain et se financer aussi avec la blockchain, évidemment. Mais... Fred, je crois que j'en avais parlé dans une précédente émission. Moi, pour moi, cette histoire de blockchain et notamment du Bitcoin, c'est cette forme de décentralisation, de séparation quelque part du rôle de l'individu et du gouvernement ou d'organismes centraux. Tu sais, il y a la loi sur la laïcité en 1905, on a séparé l'État de la religion. Et pour moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est exactement la même chose. On est en train de séparer l'État des finances et laisser les individus reprendre le pouvoir avec aussi la responsabilité sur finalement la finance. Alors, comme le dit Thibault, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'en sais rien, quoi, en fait. Mais voilà, c'est clairement une application et on a l'impression que les gens aujourd'hui... répondent favorablement à ce truc-là. Ta réaction, Fred ?
Ouais, c'est vrai que là, cet usage-là, il est extrêmement parlant, intéressant, et il a un potentiel. Aujourd'hui, je trouve encore gênant. Enfin, il y a un truc qui me gêne avec tout ce qui est décentralisé, c'est que, tu vois, au niveau impact environnemental, aujourd'hui, on se plaint du fait que les données et le streaming et tout ce qui va avec, ça prend de plus en plus d'énergie et puis de pollution, donc qui va avec, et de consommation tout court de tout. Et là, dans tout ce qui est décentralisé, alors déjà que quand c'était centralisé, on trouvait que ça prenait beaucoup, mais là, quand on décentralise, j'ai l'impression qu'on multiplie le problème. Tu vois, c'est ça qui me pose un petit problème philosophique. Là, on se dit que ça double tous les 2 ans la quantité d'énergie et de pollution générée par tout le numérique. Et là, on fait un truc où on décentralise et j'ai l'impression qu'on va prendre un facteur 100 en recopiant tout partout.
Ah, ça consomme beaucoup plus d'énergie. En tout cas, le Bitcoin, ça c'est clair. Thibaut, ça c'est le backlash en fait sur l'écologie et l'impact sur la planète. Alors, on se rend compte en ce moment que c'est peut-être orchestré par des mouvements écologistes qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent pour justement démonter la blockchain. Il y a un article qui vient de sortir la semaine dernière dans le New York Times où il y a des lobbies avec plus de 5 millions d'investis pour justement nourrir cette thèse comme quoi la blockchain détruit la planète. Mais c'est un vrai backlash, ça. On l'entend régulièrement. Comment tu réagis à ça? Comment tu réponds à ça?
Écoute, moi, je pense que au début d'un cycle d'innovation, il y a tout à améliorer. J'imagine que l'efficacité du moteur à explosion, la première année, elle devait pas être grandiose, quoi, tu vois. Et je pense que les blockchains vont devenir plus efficaces, hein, dans la manière dont elles sont architecturées. On parle de blockchains comme Solana ou Cardano qui consomment beaucoup moins.
Ou Polygon, hein, consomme pratiquement rien en termes d'énergie, quoi.
Structurellement, ouais. Hein, parce qu'elles ont été repensées par rapport à Bitcoin, qui est, je dirais, une blockchain native. Et après, au niveau, la question, encore une fois, est-ce que le fait de décentraliser va augmenter le besoin de ressources? Ça semble assez évident parce que quand on imagine la décentralisation, on imagine un petit peu des canaux et des chaînes,
des ordinateurs partout, etc.
En réalité, ouais. Les infrastructures, elles seront toujours au même endroit dans le cloud, dans des data centers. Hein. Quand on parle décentralisation, on parle rarement du fait d'utiliser, des ressources ultra décentralisées comme les ordinateurs de chacun. Hein. C'est pas cette forme de décentralisation dont on parle. C'est une décentralisation applicative beaucoup plus qu'une décentralisation du côté infrastructure. Moi, c'est ce que j'en ai compris.
Et il y a aussi un truc, c'est que Fred, là-dessus, c'est que il y a une forme aussi d'hypocrisie. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Silicon Valley, je fais une critique de la Silicon Valley, on met sur un piédestal un mec comme Elon Musk qui envoie des satellites dans le monde entier ça consomme énormément d'énergie, hein, ces trucs-là aussi, mais on lui fait pas la critique à lui. Alors sur la blockchain aussi, j'avais lu un article qui était super intéressant qui disait les décorations de Noël aux États-Unis consomment en un mois la même chose que la blockchain en 6 mois, quoi, en fait. Donc, j'ai pas entendu des écolos s'ériger contre les décorations de Noël, quoique si, peut-être. Hein. Mais tu vois, il y a ça.
Il y a
un côté un peu hypocrite sur le truc. Peut-être par manque de connaissances. Et je suis d'accord avec Thibaut. On est sur une technologie qui est encore nouvelle. On n'a pas reproché au premier véhicule de ne pas avoir un pot catalytique. Ça, c'est clair, quoi, en fait.
Pour revenir sur Elon Musk, hein, je pense que ça mettrait quelques épisodes à calculer l'impact carbone et la comparaison d'envoyer 40 000 satellites. Effectivement, hein, ça a un impact carbone énorme, hein, sur les 40 000 satellites pour créer un réseau de communication versus combien ça coûte aujourd'hui de creuser tous les trous, de faire tous les terrassements et de tirer tous les câbles pour pouvoir assurer la communication sur cette planète. Ça se mesure, mais à mon avis, ça serait trop facile de dire que ça coûte que finalement il y aura un bilan très négatif pour Elon Musk. Hein. Ça se calcule, mais à mon avis, ça sera beaucoup plus efficace de faire passer les communications, hein, si c'est le sujet dont on parle, hein, Internet dans l'espace, que ça allait de le faire sur Terre, quoi.
Donc ça veut dire qu'il faut accepter ce que tu dis là, Thibaut, c'est aussi qu'il faut accepter un investissement carbone pour du mieux plus tard, qu'en fait, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup de carbone aujourd'hui, mais la question que pose Fred, et elle est légitime. Hein,
la centrale nucléaire, hein, Carlos, hein, la centrale nucléaire, c'est je crois que l'impact sur carbone du nucléaire, c'est une majorité due à la construction de la centrale, quoi, tu vois. Donc, tu construis en 10 ans une centrale nucléaire, ça coûte énormément d'énergie, de carbone, mais après, ça te permet de le réduire sur les 40, 50 ans de la vie de la centrale, quoi. Donc, c'est toujours des choses à mesurer qui sont extrêmement complexes et qui dépendent vraiment de chaque activité, quoi.
Mais la question de Fred, elle est légitime aussi, c'est que le fait comment est construit Bitcoin aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce soit un coût initial, c'est-à-dire que le fait de faire fonctionner la blockchain Bitcoin consomme de l'énergie en permanence, quoi. C'est-à-dire que et c'est vrai que le modèle même de la blockchain Bitcoin est un désastre écologique, à l'inverse d'autres blockchains comme tu le citais, Solana, Cardano, Avalanche ou Polygon, qui sont construits sur des protocoles qui sont très différents en termes de fonctionnement et qui consomment beaucoup beaucoup moins d'énergie, mais c'est vrai.
Alors, est-ce que justement, ça c'est intéressant, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, si tu as une nouvelle blockchain, j'en profite, hein, puisque vous êtes deux experts de tout ça, donc je profite aussi du podcast pour me cultiver moi aussi.
Bien sûr, et les gens qui nous écoutent aussi, donc c'est parfait, quoi.
Est-ce qu'il y aura un moyen, par exemple, de transférer, alors soit de changer la technologie sous Bitcoin pour que ça pollue moins, soit de transférer tout Bitcoin dans une nouvelle blockchain plus responsable écologiquement. Est-ce que ça vous semble faisable?
C'est ce qui se passe un petit peu avec Ethereum, non?
Ouais, mais il n'y a pas forcément de transfert direct entre les deux.
Non.
Est-ce que tu vas pouvoir remplacer le moteur de Bitcoin? Et derrière cette question-là, attention, c'est vachement structurel, hein, parce que si c'est pas possible, c'est-à-dire que si c'est pas possible de changer le moteur de Bitcoin pour qu'il soit moins consommateur d'énergie, ou si c'est pas possible de transférer toute la valeur des Bitcoins dans une autre blockchain moins consommatrice d'énergie, comme ce que tu dis, Thibaut, j'y crois, c'est qu'effectivement, les premières versions sont moins optimales que les suivantes, ça veut dire que Bitcoin, il va être obligé de mourir de sa belle mort, parce que derrière, ce sera intransférable. Il y a un moment, ça va devenir insoutenable que ce soit autant consommateur quand les autres blockchains consomment moins. Et donc, du coup, c'est une autre blockchain qui va naître. Et la valeur de ce qu'il y a dans le Bitcoin aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va devenir.
Il y a moyen, hein, alors je ne me prétends pas du tout expert du sujet par ailleurs, hein, mais il y a tout à fait moyen de forquer Bitcoin et d'offrir, et ça s'est passé à l'époque sur Ether, hein, pour d'autres raisons, un équivalent, c'est-à-dire donner un Bitcoin 2 pour l'équivalent d'un Bitcoin si tout le monde se met d'accord, hein. Donc ça c'est possible. Moi, ce que je pense que Bitcoin a construit, surtout au-delà de l'infrastructure, c'est une marque, quoi, tu vois. Une marque qui est liée au transfert d'argent, quoi, tu vois, et à la monnaie. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait possible. C'est peut-être pas simple, mais ce que fait par exemple Ether avec son layer 2, il y a plusieurs layer 2 qui existent, où on peut donc l'Ethereum 2, c'est une blockchain plus adaptée, plus efficace, qui coûte moins cher, en tout cas au niveau des gas fees. Derrière, j'imagine qu'elle est plus que vu que ça coûte moins cher, ça veut dire qu'il y a moins d'opérations et donc du coup qu'elle est moins consommatrice de carbone à proprement parler, quoi. Donc je pense qu'il y a des solutions, oui.
Absolument. Je pense que, et aujourd'hui tu parles de Ethereum 2, normalement devrait sortir dans les mois qui viennent. On l'attend tous avec impatience et un des principaux sujets d'Ethereum 2, c'est justement l'impact écologique qui est. Mais tu as raison, Fred, c'est le principal reproche qui est fait aujourd'hui à la blockchain, c'est son impact écologique. C'est pas le seul reproche qu'on fait aujourd'hui à la blockchain. Thibaut ?
Ouais, par rapport au sujet, hein, il y a l'impact écologique clairement, mais si on parlait du transfert d'argent et on parlait de savoir si des intermédiaires, notamment l'État, hein, tu parlais de la séparation entre l'Église et l'État, était une bonne chose. On peut se poser la question. Honnêtement, moi, je pense que c'est hyper important, notamment pour tout ce qui est financement du terrorisme, blanchiment d'argent, qu'il y ait quand même un régulateur qui vienne savoir d'où viennent les fonds et comment ils sont utilisés. Et honnêtement, je suis assez rassuré, même si ça m'emmerde profondément quand une banque me demande, quand je fais un virement de l'étranger qui arrive sur mon compte, bah, d'où ça vient et pour quelle raison. Honnêtement, je me sens un peu fliqué, mais je pense que c'est pour la bonne cause, quoi, tu vois. Et ça, j'ai peur que ça disparaisse et je me demande la manière dont ça va être remplacé à terme, quoi.
Non, tu fais un bon point là. Je pense que il y a plusieurs écoles aujourd'hui dans ce monde du Web 3. Il y a effectivement ce qu'on appelle toute cette vague un peu libertarienne qui veut une intervention, aucune intervention de l'État justement sur ces choses-là. Mais il y a aussi effectivement des gens comme nous qui considérons que Non, l'État a son rôle à jouer et tu as absolument raison de le stipuler. Il y a deux moments en fait dans cette finance décentralisée. C'est ce qu'on appelle le on-ramp et le off-ramp, c'est-à-dire que grosso modo, quand on met de l'argent en circulation dans cette économie, c'est bien effectivement que les banques et l'État vérifient l'origine en fait de ces fonds-là pour pas que on utilise finalement la blockchain pour blanchir un argent sale. Et il y a le moment de l'off-ramp aussi, c'est-à-dire que quand on a créé de la valeur et qu'on veut le remettre dans une économie plus traditionnelle, il est normal aussi de payer des taxes dessus, quoi, ça c'est clair. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas.
Mais on pourrait imaginer que quand... Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est l'off-ramp et l'on-ramp, parce qu'il y a un monde où il y a à la fois les fiat et la crypto, mais dans le monde de demain où il n'y aurait que de la crypto, il faudra réfléchir avec des mécanismes qui permettent de mettre en place tous les systèmes qui ont été mis en place dans... récemment d'ailleurs, hein, pour nous protéger en tant qu'individus, quoi, tu vois. Et ça sera peut-être des systèmes qui seront pas dirigés par l'État. Ça sera peut-être des DAO, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui décident de mettre en place des gouvernances et de la curation, ou alors des intelligences artificielles qui vont permettre de signaler telle ou telle transaction et de les bloquer, quoi, tu vois. Donc, ça peut pas aller sans ça, quoi, tu vois. On peut pas faire un pas en arrière. On a mis 40 ans à créer un petit peu des financements plus éthiques, quoi, tu vois, pour nous protéger. Il ne faudrait pas que ça soit détruit du jour au lendemain parce qu'une nouvelle technologie arrive, quoi, tu vois.
Je profite de l'occasion d'avoir le co-président de France Digital avec nous. Et en préparant cette émission, je t'avais un peu challengé là-dessus. France Digital, cette question-là, cette réflexion autour de la blockchain, il y a des acteurs en France hein, qui œuvrent à ce nouveau monde du Web 3. Est-ce qu'ils font partie de France Digital? Est-ce que vous avez des conversations au sein de France Digital et que vous avez créé des ponts entre ces acteurs de la blockchain et nos gouvernants, le législateur en l'occurrence, vous savez bien faire ça chez France Digital. Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table?
Ouais, bah en fait, bon, alors il y a d'ailleurs, c'est marrant, dans une dizaine de jours, il y a la Paris Blockchain Week Summit, et on est partenaire. C'est des sujets qui sont clairement en cours de discussion. On n'est clairement pas, enfin de toute façon, personne n'est arrivé sur ce sujet-là. On discute aussi avec la DAN, tu sais, qui est les entreprises françaises du numérique. Je ne sais pas si tu connais. C'est une association qui est vraiment spécialisée pour tout le secteur des actifs numériques et des technologies blockchain. Donc, on discute avec eux qui sont plus spécialisés, évidemment, que France Digital, qui est plus large, j'ai envie de dire, par rapport à un écosystème de toutes les startups, hein, et pas seulement ce sujet-là. Donc oui, c'est des sujets en cours. Forcément, on va tous apprendre en même temps qu'on avance et on a des discussions sur le sujet. Voilà. Donc, après, on a Sarah Diane Eck chez nous, qui est une fondatrice, multifondatrice de boîtes dans le domaine de la blockchain. Et qui est très intéressé par ces sujets-là. Donc, si tu es au board, on est une vingtaine au board de France Digital. Il y a une dizaine d'entrepreneurs, une dizaine d'investisseurs. Et puis, chacun des entrepreneurs du board a sa spécificité suivant son domaine dans lequel il a déjà évolué. Et typiquement, chez France Digital, c'est Sarah Diane.
Alors, on parle cette semaine avec mes invités. J'ai avec moi Thibaut Elvière, le cofondateur de eFounders et Fred Mazzella, cofondateur de Blablacar. On parle de cette transition entre le Web 2 et le Web 3. Et j'avais envie d'interroger ces vieux gorilles cendrés du Web 2 que sont Thibaut et Fred Mazzella. Quel regard est-ce qu'ils portent sur justement ce nouveau monde qui se présente aujourd'hui et tout ce que ça représente en termes de changement. Si vous appréciez Silicon Carnet, n'hésitez pas à le faire savoir. La meilleure façon d'aider cette émission, c'est d'acheter ces NFT, mais aussi de partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors, on continue notre conversation dans la deuxième partie de cette émission. J'avais envie de poser la question, Thibaut, toi qui t'es plongé dans ce truc-là à fond. Comment est-ce que tu expliques que soudainement il y a eu ce mouvement? Pourquoi, à ton avis, ce mouvement du Web3 a émergé là dans les en 2020, quoi, grosso modo? Ça a été l'année vraiment de où tout d'un coup tout le monde, parce que la blockchain elle existe déjà depuis un petit bout de temps, tu l'as dit toi-même, vous aviez créé une start-up, c'était il y a 4 ans, tu disais déjà sur le sujet à l'époque. C'était là, mais c'était un truc d'initié. Et puis tout d'un coup, là, depuis 2020 et l'année dernière, beaucoup, on a l'impression, en tout cas ici dans la Silicon Valley, qu'on ne parle plus que de ça. J'étais hier avec des investisseurs et les investisseurs, si t'as pas du Web3 dans ton pitch, alors bon, le Silicon Valley, c'est un peu comme Hollywood, quoi. Il faut, ils ont des scénarios, des types de scénarios qui financent, et si t'as pas un dinosaure, si on fait des films avec des dinosaures dedans et que t'as pas un dinosaure dans ton film, personne va te le financer. Mais comment t'expliques ça, ce phénomène-là, tout d'un coup, cette émergence-là, là, maintenant? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol? C'est quoi? Est-ce que la technologie est là? C'est quoi? Qu'est-ce qui explique ça, la perfect storm?
Alors déjà, je pense que le Web 2, c'était l'erreur de parcours, globalement.
Ah oui, ça c'est intéressant, tu m'as dit ça, explique-nous ça, ouais, ça c'est vachement intéressant.
Moi j'ai l'impression que ce qu'on m'a vendu de l'Internet quand j'avais 20 ans, c'était un monde complètement décentralisé, quoi, tu vois. Donc j'entendais, et puis il y a eu ces applications collaboratives, hein, qui sont, je dirais, l'émergence du Web 2. Donc on attendait à avoir des applications collaboratives totalement décentralisées, et la résultante, c'est qu'on a eu plutôt des applications collaboratives, hein, qui permettaient du coup à n'importe qui d'interagir avec, je dirais, le web, mais totalement propriétaire sur des plateformes centralisées, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est parce qu'on pouvait pas faire tout en même temps, et donc du coup ça s'est fait de manière progressive. Mais pour moi, la réalité du web tel que je l'avais imaginé, tel que je l'ai rêvé, c'est de toute façon le web 3 tel qu'on le décrit aujourd'hui. C'est un web totalement décentralisé, un web, si on lui coupe une partie, il peut toujours vivre, quoi, tu vois, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'avait pas été le cas avec le web 2. Après, ce qui s'est passé, pourquoi il y a un engouement, j'irais, depuis, il y a eu plusieurs phases d'engouement, hein, mais il y a un engouement assez marqué depuis 18 mois. Parce que pour la première fois, et je reviens un petit peu sur ce qu'on disait au départ, ce que disait Fred, hein, il y a une application, et moi je pense que le Web3, la notion de Web3 est née avec le NFT. Enfin, il y a une application non financière, parce que la finance, ça a beau être quelque chose de central, ça parle pas à tout le monde et ça plaît pas à tout le monde. Il y a une application non financière à large, à large spectre, le NFT, qui a permis de comprendre à quoi servait la blockchain, quoi, tu vois, et notamment l'utilisation du NFT dans les jeux et dans l'art, quoi.
Dans le domaine artistique, hein, voilà, ouais, dans les médias.
Et qui a fait naître des modèles.
Exactement.
De rémunération, par exemple, pour les artistes, qui peuvent se rémunérer sur des ventes, secondaires, ou dans les jeux avec le play to earn, qui n'existait pas avant. Donc, c'était le Web 3 qui a fait naître des modèles et des concepts dont on n'avait jamais imaginé qu'ils pourraient exister à aucun moment, quoi, tu vois. Et c'est pour ça l'engouement. Et pourquoi les VC? Alors, ce que je note chez les VC, d'ailleurs, c'est que depuis quelques semaines, si on suit très bien, il y a un peu un retour du SaaS. Et les gens reviennent en disant, écoutez, je reçois des milliers de dossiers Web3 toute la journée. Est-ce que vous avez encore des dossiers SaaS, quoi, tu vois? Donc, je me dis qu'il y a encore un espoir.
Ils sont formidables.
Mais effectivement, et on l'a vu, honnêtement, c'est un engouement qui est pour moi légitime et qui sera de beaucoup plus grande envergure. Mais rappelez-vous le GPT-3, c'est ça, GPT-3, qui était cette librairie NLP. Ça a duré, je crois, l'engouement a duré un mois, mais à ce moment-là, mais genre tout le monde ne parlait de ça, que de ça, et tout le monde rajoutait de l'AI dans ses decks, quoi, tu vois. Donc au-delà du hype, et ça, il faut vraiment s'éloigner de la Silicon Valley pour en être protégé, il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer, mais ça va se passer progressivement dans les prochains mois et dans les prochaines années. Pas besoin de se rusher, quoi.
Fred, cette lecture qu'a Thibaut, il y a quelque chose d'un retour finalement au Web 1. Il y a cette phrase de John Perry Barlow dans sa déclaration d'indépendance du cyberespace qui date de 96, qui résonne aujourd'hui à l'heure du Web 3, où il dit « Nous créons un monde où n'importe qui, n'importe où peut exprimer ses croyances, aussi singulières soient-elles, sans craindre d'être contraint au silence ou à la conformité. C'était le vœu, la volonté de John Perry Barlow en 96. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avec ces plateformes centralisées, il y a eu une forme, quelque part, de modération. On a fait une émission il n'y a pas longtemps avec Julien Genestou, qui est le fondateur de Unlock, qui est un protocole sur la blockchain, qui lui parle d'une ère de féodalisme digital, où grosso modo ces plateformes sont un peu comme des seigneurs, c'est-à-dire qu'ils ont des terres dont ils sont l'entier propriétaire, dans lequel nous pauvres gueux quoi et paysans on exploite en fait ces trucs-là, et que tout ça est entre les mains de quelques seigneurs, et je trouvais l'image de ce digital féodalisme assez vraie, et que le Web3 était finalement une sorte de révolution, de reprise du contrôle du pouvoir et par l'individu lui-même qui crée lui-même sa valeur sur ces terres-là. Je ne sais pas, comment est-ce que tu regardes ça, toi, de ton côté?
Bah, je pense que le principe, justement, des DAO est très important pour avoir une certaine forme de structuration et de gouvernance, parce que, je veux dire, le système purement anarchique, on n'en a jamais vu un réussir à se structurer pour aller dans une direction... Qui donne quelque chose. Donc, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il va peut-être exister une forme de gouvernance différente à base de DAO sur les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger, et ce sera plus la même forme de gouvernance que celle qu'on a, sur les plateformes, les grandes plateformes centralisées dont on parle, sur d'autres modèles de gouvernance de société. Donc ça va évoluer.
Ouais, rappelons aux auditeurs qui nous écoutent ce qu'est une DAO, parce que tu dis que tu n'es pas expert, mais tu as déjà le langage d'expert. Donc une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, c'est-à-dire c'est une sorte de board, quoi, en fait, qui règle et qui régit un protocole et qui prend des décisions de façon collective, sous forme de vote. Sauf que dans un board, dans une entreprise, il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine de personnes maximum, alors que là, dans une DAO, on pourrait avoir des millions d'individus. Et j'ai envie de te poser cette question, Fred. Par exemple, dans un cadre comme Blablacar, est-ce qu'il aurait été envisageable, est-ce que ça aurait été souhaitable, est-ce que tu aurais aimé, par exemple, que certaines décisions par rapport à la plateforme Blablacar, je parle bien évidemment des décisions importantes, je ne parle pas de la couleur du papier peint, mais qui fondent le fonctionnement même de Blablacar, par exemple les taux de rémunération des drivers, des choses comme ça, est-ce que ça aurait pu être déporté auprès des utilisateurs eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes choisissent en fait les règles de gouvernance du modèle économique de Blablacar?
Ah, bah alors déjà, sur le choix du prix de la place dans une voiture, c'est carrément le conducteur lui-même qui choisit aujourd'hui. Hein, donc tu vois, là, on peut pas faire plus décentralisé que ça. Donc là, c'est décentralisé. Chacun choisit son prix. Donc si tu veux, bon, c'est une place de marché. C'est le principe d'une place de marché. Alors après, sur d'autres types de décisions, oui, je pense que, comme je l'évoquais là, c'est que au-delà du fait que ça permet de prendre une décision à plusieurs, et donc que c'est une forme de gouvernance intéressante, c'est surtout, je trouve, une forme d'implication et de responsabilisation très intéressante de tout le monde. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait tous qu'une décision à laquelle on a participé, c'est-à-dire on a construit ensemble telle ou telle décision, eh bien, on va être beaucoup plus enclin à l'accepter. Ça, c'est un trait humain très, très simple. Hein. Même en management, tu vois, tu fais toujours en sorte que la décision de faire telle ou telle chose, elle soit prise par toute l'équipe pour que toute l'équipe y adhère. Parce que si tu, dans ton coin, tu décides qu'on va faire ça, tu sors de ton bureau, tu dis les gars, on fait ça, tu vas être tout seul, en fait, aujourd'hui, tel que c'est fait. Tu ne vas pas réussir à emmener tout le monde. Donc, en fait, une décision qui est prise par tout le monde est beaucoup mieux suivie. Donc, ça, c'est très intéressant en termes de gouvernance.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, et c'est une façon que j'ai souvent d'expliquer les tokens, il ne viendrait pas à l'idée à une startup de se créer sans créer des stock options et de distribuer des stock options à ses salariés. Une startup, c'est une communauté hein, de gens qui se réunissent pour fabriquer quelque chose ensemble. Et pour moi, les tokens dans ces protocoles, dans ces projets Web3, sont ni plus ni moins que des formes de stock option pour les utilisateurs. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une façon de redistribuer la valeur qui est créée auprès des utilisateurs eux-mêmes. Il y a cette phrase très fameuse dans la Silicon Valley où on dit « si tu ne payes pas, c'est que tu es le produit ». Et aujourd'hui, les gens disent « bah ok, on est le produit ». Mais je voudrais avoir une partie, en fait, du si je suis le produit, il n'y a pas de problème. OK, je suis le produit, mais est-ce que je ne peux pas toucher une partie du fruit de ce produit-là, Thibaut, est-ce que c'est une façon aussi d'envisager ça chez Fotolia, par exemple? Comment vous auriez fait?
Bon exemple, Fotolia, alors qu'une place de marché traditionnelle prend à peu près 10-15% de commission, dépendant de l'activité qu'elle fait. Je crois que c'est à peu près les ordres de grandeur aussi chez BlaBlaCar. C'est les mêmes ordres de grandeur dans une place de marché comme Airbnb. Chez Fotolia, on prenait 70% du prix de vente d'une photo. C'est-à-dire que 70% de la valeur entre le photographe transférée entre le photographe et l'acheteur final, elle était capturée par la plateforme. Alors on faisait ça parce qu'historiquement dans la photo, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, ça a toujours été le cas, et finalement ça a perduré. Mais aujourd'hui, dans un contexte où Fotolia n'existerait pas, où on arrive à créer un système sans intermédiaire, l'artiste, le photographe final, toucherait finalement 100% à quelques pourcentages près, hein, certainement de gas fee, etc., du prix de la photo. Donc ça m'a l'air plus juste. Est-ce que ça aura des effets de baisser le prix de la photo à proprement parler et qu'au final, du coup, les gens toucheront pas plus d'argent, je dirais, en absolu que ce qu'ils touchaient à l'époque, peut-être, quoi, tu vois. Il y a une chose qui est assez intéressante sur Fotolia, parce qu'on parlait de la force de la communauté des DAO, c'est la modération. Donc nous, en tant qu'intermédiaire chez Fotolia, un de nos rôles, c'était de modérer les photos, c'était de savoir si, notamment, une photo était de bonne qualité, est-ce que c'est une photo qui avait un pouvoir commercial assez important pour qu'on puisse la mettre en vente. Grand 1, on voulait pas que des photos de chats et de tulipes, quoi, tu vois. Grand 1. Grand 2, savoir si elle était, je dirais, légale au sens de la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Alors qu'on peut pas prendre, par exemple, vous le savez peut-être, hein, on peut pas vendre une photo de la Tour Eiffel éclairée parce que l'œuvre artistique appartient à l'éclairagiste, quoi, tu vois, ni de la défense parce que c'est un bâtiment qui est pas nommé dans le domaine public, donc il y a pas mal de règles à savoir. Et troisièmement, on vérifiait la notion de propriété, de droit à l'image, savoir si les modèles représentés sur les photos, ok, avaient bien signé des autorisations pour y être représentés, quoi, tu vois. Donc ça, c'était quand même notre boulot et qui justifiait. Peut-être pas tout, mais une partie de l'argent qu'on prenait. On a essayé sur la partie, modération, de faire ça, par nos photographes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au lieu d'avoir une équipe de 10 personnes en interne qui est formée et qui sait bien faire ça, on va faire ça de manière complètement web 2.0. C'est comme ça qu'on l'imagine.
Collaboratif,
quoi,
communautaire.
Et ça a été un fiasco total, quoi, tu vois. Un fiasco total dans le sens où, même si on avait fait un wiki pour expliquer aux gens les différentes règles, etc., ils étaient pas formés. On a réalisé que finalement, il fallait avoir une certaine forme d'expérience, que tu pouvais pas du jour au lendemain trier des photos, qu'il y avait que ça induisait des énormes biais sur le fait que il y avait les photographes, évidemment, ne modéraient pas leurs propres photos, mais pouvaient s'arranger pour modérer des photos d'une communauté qui leur était proche, quoi, tu vois. Ça a duré un mois et on est revenu à notre équipe de 10 personnes.
À un modèle centralisé. Hein.
Un modèle complètement centralisé et assisté, et ce qu'on a continuellement assisté, avec des programmes et des applications pour aider justement l'humain à être plus efficace, à faire des meilleurs choix, quoi, tu vois. Mais dans ce cas-là, le modèle complètement, collaboratif et décentralisé n'a pas fonctionné.
Mais c'est ce que explique Fred, c'est ce modèle anarchique qui on n'a jamais vu fonctionner. Et moi, je pense que quand on regarde le Web 3, il y a une forme de centralisation qui est effectivement nécessaire. Et l'exemple que tu donnes est un très bon exemple. Mais ça n'empêche pas que la plateforme soit Web 3, c'est-à-dire que effectivement, toi, tu peux avoir des règles pour afficher certaines données plutôt que d'autres, mais que quand cette donnée est affichée ou est commercialisée, la transaction, elle, reste décentralisée, c'est-à-dire que la donnée puisse rester la propriété des individus à partir du moment où elle passe un peu tes règles centrales. Ça n'empêche pas, quoi, en fait.
Oui, il y aura toujours un intermédiaire. L'image d'un Fotolia complètement décentralisé. C'est un DEX, hein, un échange décentralisé, dans lequel il y a des photographes qui viennent soumettre leurs photos sous forme qui sont mintées.
Mais est-ce que c'est pas Unsplash par exemple ça?
Ben Unsplash, ça se fait, mais à travers un site web qui s'appelle Unsplash et dans lequel ils ont créé une plateforme, une infrastructure, des databases, une équipe certainement qui vient modérer tout ça. Hein. Ben, y a des gens derrière Unsplash.
Ouais.
Le Unsplash décentralisé, ça pourrait s'appeler Unsplash, mais complètement décentralisé, où finalement il y a d'un côté des photographes qui viennent mettre leurs photos et de l'autre des vendeurs qui viennent acheter les NFT qui représentent les photos et qui contiennent le contrat d'utilisation, le smart contract d'utilisation de la photo, dans quel cadre je peux l'utiliser. Parce que quand on achète une photo sur Photolia, et ce serait le même cas aujourd'hui dans un truc décentralisé, t'achètes pas la photo en elle-même, t'achètes le droit finalement.
Droit d'usage de la photo.
Exactement, de l'utiliser, de l'exploiter, quoi, tu vois.
Peut-être une idée pour Blablacar. Ça serait, et on le voit dans certains projets Web3, les plateformes prennent une commission, OpenSea prend un pourcentage en fait sur les ventes ou des choses comme ça, mais on voit des plateformes aussi dire, ben voilà, je prends une part en fait pour faire fonctionner le protocole ou la plateforme en question, mais une part en fait de mes revenus vont dans une sorte de fonds qui lui est géré par la communauté. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait dire que chez Blablacar, une partie des commissions perçues par Blablacar vont alimenter un fonds qui, par exemple, de façon mensuelle, va redistribuer cet argent sur la base de l'implication et de la participation des individus sur la plateforme. Ce qui permet de gagner de l'argent dans Blablacar, pas simplement en conduisant, mais avoir aussi une sorte de passive income qui est basée sur ta participation au projet Blablacar, ou voire même, tu pourrais très bien dire, bah, ce fonds-là peut être utilisé pour aider les gens à financer le changement de leur bagnole, quoi. Tu vois, des prêts pour acheter une nouvelle voiture ou des choses comme ça. Mais ça serait décidé, en fait, par la communauté. Voilà, typiquement, une application Web3 qu'on pourrait imaginer sur Blablacar.
Oui, enfin, après, il faut voir effectivement quel type de tâche qui aujourd'hui est performée par l'équipe et donc utile et même nécessaire à ce que le service soit bien structuré et qu'il livre tout ce qu'on peut en attendre. C'est quelle partie tu peux effectivement placer sous ce modèle-là? Est-ce que c'est une partie du service client? Est-ce que c'est, je ne sais quoi, de la modération? Est-ce que c'est autre chose? Mais effectivement, ça pourrait s'imaginer. Mais tu sais, justement, puisque tu as lu le livre, tu sais bien qu'au début, les monnaies étaient quelque chose qui était très présent dans le système qu'on voulait.
Mais j'allais te le dire, dans ton bouquin, tu parles à un moment, ça, j'oublie à chaque fois le terme, c'est qu'il ne devait pas être bon, hein, d'ailleurs. Hein, qu'en fait, c'était
c'est parce
les...
que le principe, c'est commuto.
Les commutos.
Et la monnaie, c'est les mutos. Qui mute, justement. Et une monnaie, ça mute, tu vois.
Alors, explique-nous, comment tu as eu cette idée tarée, quoi, en fait? C'était quoi l'idée derrière ça, quoi, en fait?
Donc, la société s'appelle Commuto aujourd'hui, justement, pour cette raison-là. C'est de l'échange de services, si tu veux, un peu de la même manière que tu as de l'échange de biens sur eBay. Là, c'est de l'échange de services où, en fait, à chaque fois que je te rends service, ça crée une certaine valeur qui s'appelait les mutos. Et quand, du coup, tu peux réutiliser ces mutos-là, toi, pour obtenir un autre service. Par exemple, je sais pas, je viens tailler ta haie chez toi, et puis après, je gagne des mutos qui me permettent de voyager en Blablacar ou de m'acheter des cours d'anglais d'une autre personne. Donc, c'est vraiment une monnaie qui est uniquement basée sur de l'échange de services entre personnes. On n'est plus du tout dans la possibilité d'acheter des biens matériels. Donc, en fait, ce serait quelque chose qui pourrait, je pense, très bien vivre dans un milieu de type blockchain Web3.
Ah bah carrément, ouais.
Parce que on est totalement détaché d'objets matériels, on est juste dans du service dont une bonne partie d'ailleurs peut se rendre à distance, tu vois. Si on parle de prendre un cours d'anglais avec quelqu'un, bon, c'est quelque chose que tu peux faire en visio aujourd'hui. Après tu me diras, tailler ta haie, va quand même falloir venir en physique le faire, mais et puis se déplacer aussi. Mais c'est quand même une notion de service. Voilà, donc effectivement, c'est pour ça qu'au départ, j'avais imaginé une monnaie spécifique au service qui était les mutos. Bon, finalement, on est parti avec des euros tout bêtes.
Mais tu l'as pas fait.
Non, non, bah non.
Pourquoi tu l'as pas fait?
Bah parce qu'en fait, il fallait. Alors, il y a un truc très important. Il faut rester focus quand on crée une boîte. Ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Je pense que Thibaut doit passer ses journées à expliquer ça aussi à tous les gens qui passent par son studio. C'est que en fait, si tu n'es pas focus, tu ne crées pas un truc qui marche. Et moi, il fallait que je me focalise sur créer déjà un truc qui marche, qui était le covoiturage. Je pouvais pas en plus aller me donner le loisir de créer une plateforme d'échange de tous les types de service, quoi.
C'est assez marrant parce qu'à l'Inception Fotolia, au départ, ça je crois que j'en ai jamais parlé, mais quand je l'ai pitché moi à mes premiers investisseurs, c'est l'idée, c'était d'une place de marché de tous les biens intangibles, quoi, tu vois. Donc je comptais vendre des vidéos, des photos, des templates, etc. Puis finalement, j'ai commencé par la photo, puis j'ai focus et je suis resté là-dessus. Et à terme, on a rajouté d'autres médias, mais l'idée initiale, je le vendais comme l'IB du digital, quoi, tu vois. Alors, l'IB pour lequel je faisais les services, et moi l'idée c'était de vendre des biens intangibles, quoi, c'est-à-dire des biens digitaux, quoi.
Parfaitement compatible avec la blockchain, hein, et les NFT, t'es en plein dedans.
Exactement.
Ouais, faut relancer ça, Thibaut. Alors
20 ans trop tôt.
T'as ta nouvelle startup, tu peux reprendre l'idée originelle de Fotolia et puis lancer ça maintenant sur la blockchain et aller au-delà des photos.
On va lancer ça ensemble, Thibaut.
Ah,
on relance les mutos, tu relances les biens intangibles,
relances
l'échange de services, c'est parti, quoi.
Voilà, ben voilà, vous venez de voir la naissance du nouveau projet de Thibaut qui s'associe avec Fred Mazzella officiellement dans Silicon Carnet pour lancer Photomutos. Nouveau projet qui vient de naître là à l'occasion de cette émission de Silicon Carnet. Bon les gars, c'était super sympa, j'étais ravi, d'abord vous êtes des potes et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et de discuter ensemble, et merci pour cette conversation. On voit que, en tout cas, le sujet vous interroge et que vous regardez ça de près, et je suis certain qu'on va se redonner rendez-vous dans un an, tous les trois, et on refera un point dans un an et on fera une sorte d'écho de cette conversation un an plus tard. Ça se trouve, Fred nous foutra de notre gueule en disant « Ah, vous voyez, vous êtes bien rigolé qu'en fait, mais vous êtes bien planté. » Ou alors Thibaut aura lancé 268 startups dans le Web3 à travers son nouveau studio eFounders Web3. Et Fred sera déjà en train de se dire « Merde, il faut maintenant que j'écrive un nouveau bouquin quoi, en fait, pour expliquer comment j'ai loupé le virage du Web3. »
Attends, moi je suis super content de me dire que ces choses-là nouvelles vont arriver et peuvent arriver, hein. Je suis pas du tout dans un mode où j'irais dire quoi que ce soit. Enfin, tu vois, je suis content, hein. Mais c'est vrai que moi j'y suis pas complètement tombé dedans parce que je cherche l'impact aujourd'hui et voilà, on en a discuté.
Mais tu as raison en plus, tu as raison de remettre en fait du purpose dans tout ce truc-là pour pas que ce soit un truc de développeur qui se mette à développer des trucs sans se poser la question de à quoi ça sert. On sait que 42% des startups meurent parce que ce qu'elles font ne sert à rien, quoi, en fait, ne résout aucun problème. Donc, tu as raison de poser la question de
la patate connectée,
c'est quoi le cas d'usage.
Ça sert à rien, la patate connectée.
Ouais, non, la patate connectée, ça sert à rien.
Et peut-être pour finir sur une touche d'optimisme, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le Web3, il y a encore plein de choses à faire dans le Web2. Et Figma, Notion, Enco vont pas être complètement révolutionnés parce que il y a un mode décentralisé, quoi, tu vois. Donc il y a encore énormément de choses à créer avec de l'impact et dans d'autres dimensions. Ça reste qu'une technologie parmi tant d'autres.
Absolument, et tu as raison de le dire. Je parlais avec un investisseur pas plus tard que cette semaine qui me disait que oui, le Web3 c'est super important, mais qu'effectivement le SaaS, c'est peut-être un peu boring, mais ça marche, quoi. En fait, on a besoin de logiciels en ligne pour améliorer notre façon de travailler et que ça va pas changer. Donc le Web3 ne va pas venir aussi remplacer tout le reste, c'est juste une technologie de plus qui va nous permettre de faire des choses super intéressantes. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!